Chapitre 78. Où, après avoir manqué d'être rôti, Mousqueton manqua d'être mangé. Un profond silence régna longtemps dans le canot après la scène terrible que nous venons de raconter. La lune, qui s'était montrée un instant, comme si Dieu eût voulu qu'aucun détail de cet événement ne restât caché aux yeux des spectateurs, disparut derrière les nuages. Tout rentra dans cette obscurité si effrayante dans tous les déserts et surtout dans ce désert liquide qu'on appelle l'océan, et l'on n'entendit plus que le sifflement du vent d'ouest dans la crête des lames. Porthos rompit le premier le silence. « J'ai vu bien des choses, dit-il, mais aucune ne m'a ému comme celle que je viens de voir. Cependant, tout troublé que je suis, je vous déclare que je me sens excessivement heureux. J'ai 100 livres de moins sur la poitrine et je respire enfin librement. » En effet, Porthos respira avec un bruit qui faisait honneur au jeu puissant de ses poumons. « Pour moi, dit Aramis, je n'en dirai pas autant que vous, Porthos. Je suis encore épouvanté. C'est au point que je n'en crois pas mes yeux, que je doute de ce que j'ai vu, que je cherche tout autour du canot et que je m'attends à chaque minute à voir reparaître ce misérable tenant à la main le poignard qu'il avait dans le cœur. « Oh, moi, je suis tranquille, reprit Porthos. Le coup lui a été porté vers la 6e côte et enfoncé jusqu'à la garde. Je ne vous en fais pas un reproche, Athos, au contraire. Quand on frappe, c'est comme cela qu'il faut frapper. Aussi, je vis à présent, je respire, je suis joyeux. » « Ne vous hâtez pas de chanter victoire, Porthos, dit D'Artagnan. Jamais nous n'avons couru un danger plus grand qu'à cette heure. Car un homme vient à bout d'un homme, mais non pas d'un élément. Or, nous sommes en mer la nuit, sans guide, dans une frêle barque. Qu'un coup de vent fasse chavirer le canot, et nous sommes perdus. » Mousqueton poussa un profond soupir. « Vous êtes ingrat, D'Artagnan, dit Athos. Oui, ingrat de douter de la Providence au moment où elle vient de nous sauver tous d'une façon si miraculeuse. Croyez-vous qu'elle nous ait fait passer, en nous guidant par la main, à travers tant de périls, pour nous abandonner ensuite? Non, pas. Nous sommes partis par un vent d'ouest, ce vent souffle toujours. » Athos s'orienta sur l'étoile polaire. « Voici le chariot, par conséquent, là est la France. Laissons-nous aller au vent, et tant qu'il ne changera point, il nous poussera vers les côtes de Calais ou de Boulogne. Si la barque chavire, nous sommes assez forts et assez bons nageurs, à nous 5 du moins, pour la retourner ou pour nous attacher à elle si cet effort est au-dessus de nos forces. Or, nous nous trouvons sur la route de tous les vaisseaux qui vont de Douvres à Calais, et de Portsmouth à Boulogne. Si l'eau conservait leurs traces, leur sillage eût creusé une vallée à l'endroit même où nous sommes. Il est donc impossible qu'au jour nous ne rencontrions pas quelque barque de pêcheurs qui nous recueillera. Mais si nous n'en rencontrions point, par exemple, et que le vent tournât au nord, alors, dit Athos, c'est autre chose. Nous ne retrouverions la terre que de l'autre côté de l'Atlantique. « Ce qui veut dire que nous mourions de faim, » reprit Aramis. « C'est plus que probable, » dit le comte de la Fère. Mousqueton poussa un second soupir plus douloureux encore que le premier. « Ah ça, Mouston, » demanda Porthos, « qu'avez-vous donc à gémir toujours ainsi? Cela devient fastidieux. »« C'est que j'ai froid, monsieur, » dit Mousqueton. « C'est impossible, » dit Porthos. « Impossible ? » dit Mousqueton étonné. « Certainement. Vous avez le corps couvert d'une couche de graisse qui le rend impénétrable à l'air. Il y a autre chose, parlez franchement. » « Eh bien oui, monsieur, et c'est même cette couche de graisse dont vous me glorifiez qui m'épouvante, moi. » « Et pourquoi cela, Mouston ? Parlez hardiment, ces messieurs vous le permettent. » « Parce que, monsieur, je me rappelais que dans la bibliothèque du château de Bracieux, il y a une foule de livres de voyage, et parmi ces livres de voyage, ceux de Jean Mocquet, le fameux voyageur du roi Henri IV. Après, eh bien, monsieur, dit Mousqueton, dans ces livres, il est fort parlé d'aventures maritimes et d'événements semblables à celui qui nous menace en ce moment. Continuez, Mouston, dit Porthos. Cette analogie est pleine d'intérêt. Eh bien, monsieur, en pareil cas, les voyageurs affamés, dit Jean Moquet, ont l'habitude affreuse de se manger les uns les autres et de commencer par...
Par le plus gras ! S'écria d'Artagnan, ne pouvant s'empêcher de rire, malgré la gravité de la situation.
« Oui, monsieur, répondit Mousqueton, un peu abasourdi de cette hilarité. Et permettez-moi de vous dire que je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de risible là-dedans.
C'est le dévouement personnifié que ce brave Mousqueton, reprit Porthos. Gageons que tu te voyais déjà dépecé et mangé par ton maître.
Oui, monsieur, quoique cette joie que vous devinez en moi ne soit pas, je vous l'avoue, sans quelque mélange de tristesse. Cependant, je ne me regretterai pas trop, monsieur, si en mourant, j'avais la certitude de vous être utile encore.
Mouston, dit Porthos attendri, si nous revoyons jamais mon château de Pierrefonds, vous aurez en toute propriété, pour vous et vos descendants, le clos de vigne qui surmonte la ferme.
Et vous le nommerez la vigne du dévouement, Mouston, dit Aramis, pour transmettre aux derniers âges le souvenir de votre sacrifice.
Chevalier, dit d'Artagnan en riant à son tour, vous eussiez mangé du mouston sans trop de répugnance, n'est-ce pas, surtout après 2 ou 3 jours de diète?
Oh, ma foi non, reprit Aramis, j'eusse mieux aimé Blaisois. Il y a moins longtemps que nous le connaissons.
On conçoit que, pendant cet échange de plaisanteries, qui avait pour but surtout d'écarter de l'esprit d'Athos la scène qui venait de se passer, à l'exception de Grimaud, qui savait qu'en tout cas le danger, quel qu'il fût, passerait au-dessus de sa tête, les valets ne fussent point tranquilles. Aussi Grimaud, sans prendre aucune part à la conversation, et muet selon son habitude, s'escrimait-il de son mieux un aviron de chaque main.
« Tu rames donc, toi ? » dit Athos.
Grimaud fit signe que oui.
« Pourquoi rames-tu ? »
« Pour avoir chaud. » En effet, tandis que les autres naufragés grelottaient de froid, le silencieux Grimaud suait à grosses gouttes. Tout à coup, Mousqueton poussa un cri de joie en élevant au-dessus de sa tête sa main armée d'une bouteille.
« Oh ! » dit-il en passant la bouteille à Porthos. « Oh, monsieur, nous sommes sauvés ! La barque est garnie de vivres !»
Et fouillant vivement sous le banc d'où il avait déjà tiré le précieux spécimen, il amena successivement une douzaine de bouteilles pareilles, du pain et un morceau de bœuf salé. Il est inutile de dire que cette trouvaille rendit la gaieté à tous, excepté à Athos.
« Mordieu ! » dit Porthos, qui, on se le rappelle, avait déjà faim en mettant le pied sur la felouque. C'est étonnant comme les émotions creusent l'estomac. Et il avala une bouteille d'un coup et mangea à lui seul un bon tiers du pain et du bœuf salé.
« Maintenant, dit Athos, dormez ou tâchez de dormir, messieurs. Moi, je veillerai. » Pour d'autres hommes que pour nos hardis aventuriers, une pareille proposition eût été dérisoire. En effet, ils étaient mouillés jusqu'aux os, il faisait un vent glacial et les émotions qu'ils venaient d'éprouver semblaient leur défendre de fermer l'œil. Mais pour ces natures d'élite, pour ces tempéraments de fer, pour ces corps brisés à toutes les fatigues, le sommeil, dans toutes les circonstances, arrivait à son heure sans jamais manquer à l'appel. Aussi, au bout d'un instant, chacun, plein de confiance dans le pilote, se fut-il accoudé à sa façon et eut-il essayé de profiter du conseil donné par Athos, qui, assis au gouvernail et les yeux fixés sur le ciel, où sans doute il cherchait non seulement le chemin de la France, mais encore le visage de Dieu, demeura seul, comme il l'avait promis, pensif et éveillé, dirigeant la petite barque dans la voie qu'elle devait suivre. Après quelques heures de sommeil, les voyageurs furent réveillés par Athos. Les premières lueurs du jour venaient de blanchir la mer bleuâtre, et à 10 portées de mousquet, à peu près vers l'avant, on apercevait une masse noire, au-dessus de laquelle se déployait une voile triangulaire, fine et allongée comme l'aile d'une hirondelle.
« Une barque ! » dirent d'une même voix les 4 amis, tandis que les laquais de leur côté exprimaient aussi leur joie sur des tons différents.
C'était en effet une flûte dunkerquoise qui faisait voile vers Boulogne. Les 4 maîtres, Blaisois et Mousqueton, unirent leurs voix en un seul cri qui vibra sur la surface élastique des flots, tandis que Grimaud, sans rien dire, mettait son chapeau au bout de sa rame pour attirer les regards de ceux qu'allait frapper le son de la voix. Un quart d'heure après, le canot de cette flûte les remorquait. Ils mettaient le pied sur le pont d'un petit bâtiment. Grimaud offrait 20 guinées au patron de la part de son maître, et à 9 heures du matin, par un bon vent, nos Français mettaient le pied sur le sol de la patrie.
« Mordieu, qu'on est fort là-dessus !» dit Porthos en enfonçant ses larges pieds dans le sable. « Qu'on vienne me chercher Noise maintenant, me regarder de travers ou me chatouiller, et l'on verra à qui l'on a affaire. Morbleu, je défierai tout un royaume. »
« Et moi, dit d'Artagnan, je vous engage à ne pas faire sonner ce défi trop haut, Porthos, car il me semble qu'on nous regarde beaucoup par ici. »«
Parbleu, dit Porthos, on nous admire. »
« Eh bien, moi, répondit d'Artagnan, je n'y mets point d'amour-propre, je vous jure, Porthos. Seulement, j'aperçois des hommes en robe noire, et dans notre situation, les hommes en robe noire m'épouvantent, je l'avoue. »«
Ce sont les greffiers des marchandises du port, dit Aramis. »«
Sous l'autre cardinal, sous le grand, dit Athos, on n'eût plus fait attention à nous qu'aux marchandises. Mais sous celui-ci, tranquillisez-vous, ami. » On fera plus attention aux marchandises qu'à nous.
Je ne m'y fie pas, dit d'Artagnan, et je gagne les dunes.
Pourquoi pas la ville, dit Porthos. J'aimerais mieux une bonne auberge que ces affreux déserts de sable que Dieu a créés pour les lapins seulement. D'ailleurs, j'ai faim, moi.
Faites comme vous voudrez, Porthos, dit d'Artagnan. Mais quant à moi, je suis convaincu que ce qu'il y a de plus sûr pour des hommes dans notre situation, c'est la rase campagne. Et d'Artagnan, certain de réunir la majorité, s'enfonça dans les dunes sans attendre la réponse de Porthos. La petite troupe le suivit et disparut bientôt avec lui derrière les monticules de sable, sans avoir attiré sur elle l'attention publique.
« Maintenant, dit Aramis, quand on eut fait un quart de lieue à peu près, causons. »«
Non pas, dit d'Artagnan, fuyons. Nous avons échappé à Cromwell, à Mordante, à la mer, trois abîmes qui voulaient nous dévorer, nous n'échapperons pas au sieur Mazarin.
Vous avez raison, d'Artagnan, dit Aramis, et mon avis est que, pour plus de sécurité même, nous nous séparions.
Oui, oui, Aramis, dit d'Artagnan, séparons-nous.
Porthos voulut parler pour s'opposer à cette résolution, mais d'Artagnan lui fit comprendre, en lui serrant la main, qu'il devait se taire. Porthos était fort obéissant à ces signes de son compagnon, dont, avec sa bonhomie ordinaire, il reconnaissait la supériorité intellectuelle. Il renfonça donc les paroles qui allaient sortir de sa bouche.
« Mais pourquoi nous séparer ? » dit Athos.
« Parce que, dit d'Artagnan, nous avons été envoyés à Cromwell par M. de Mazarin, Porthos et moi, et qu'au lieu de servir Cromwell, nous avons servi le roi Charles Ier, ce qui n'est pas du tout la même chose. En revenant avec messieurs Delaferre et d'Herblay, notre crime est avéré. En revenant seul, notre crime demeure à l'état de doute, et avec le doute, on mène les hommes très loin. Or, je veux faire voir du pays à M. de Mazarin, moi. »
Tiens, dit Porthos, c'est vrai.
Vous oubliez, dit Athos, que nous sommes vos prisonniers, que nous ne nous regardons pas du tout comme dégagés de notre parole envers vous, et qu'en nous ramenant prisonniers à Paris.
En vérité, Athos, interrompit d'Artagnan. Je suis fâché qu'un homme d'esprit comme vous dise toujours des pauvretés dont rougiraient des écoliers de troisième.
Chevalier, continua d'Artagnan en s'adressant à Aramis, qui, campé fièrement sur son épée, semblait, quoiqu'il eût d'abord émis une opinion contraire, s'être au premier mot rallié à celle de son compagnon. Chevalier, comprenez donc qu'ici, comme toujours, mon caractère défiant exagère. Porthos et moi ne risquons rien au bout du compte. Mais si, par hasard, cependant, on essayait de nous arrêter devant vous, eh bien, on n'arrêterait pas 7 hommes comme on en arrête 3. Les épées verraient le soleil, et l'affaire mauvaise pour tout le monde deviendrait une énormité qui nous perdrait tous 4. D'ailleurs, si malheur arrive à 2 de nous, ne vaut-il pas mieux que les 2 autres soient en liberté pour tirer cela d'affaire, pour ramper, miner, saper, les délivrer enfin? Et puis, qui sait si nous n'obtiendrons pas séparément, vous de la reine, nous de Mazarin, un pardon qu'on nous refuserait réuni ? Allons, Athos et Aramis, tirez à droite. Vous, Porthos, venez à gauche avec moi. Laissez ces messieurs filer sur la Normandie, et nous, par la route la plus courte, gagnons Paris.
Mais si l'on nous enlève en route, comment nous prévenir mutuellement de cette catastrophe ? Demanda Aramis.
Rien de plus facile, répondit D'Artagnan. Convenons d'un itinéraire dont nous ne nous écarterons pas. Gagnez Saint-Valery, puis Dieppe, puis suivez la route droite de Dieppe à Paris. Nous, nous allons prendre par Abbeville, Amiens, Péronne, Compiègne et Senlis. Et dans chaque auberge, dans chaque maison où nous nous arrêterons, nous écrirons sur la muraille, avec la pointe du couteau, ou sur la vitre avec le tranchant d'un diamant, un renseignement qui puisse guider les recherches de ceux qui seraient libres.
« Ah, mon ami, dit Athos, comme j'admirerais les ressources de votre tête si je ne m'arrêtais pas pour les adorer à celles de votre cœur. » Et il tendit la main à D'Artagnan.
« Est-ce que le renard a du génie, Athos ? Dit le Gascon avec un mouvement d'épaule.
« Non, il sait croquer les poules, dépister les chasseurs et retrouver son chemin le jour comme la nuit. Voilà tout.
Eh bien, est-ce dit ?
C'est dit.
« Alors partageons l'argent, reprit D'Artagnan. Il doit rester environ 200 pistoles.
Combien reste-t-il, Grimaud ?
182 000 louis, monsieur.
C'est cela.
Ah, vivat, voilà le soleil. Bonjour, ami soleil. Quoique tu ne sois pas le même que celui de la Gascogne, je te reconnais ou je fais semblant de te reconnaître. Bonjour. Il y avait bien longtemps que je ne t'avais vu.
Allons, allons, D'Artagnan, dit Athos. Ne faites pas l'esprit fort, vous avez les larmes aux yeux.
Soyons toujours francs entre nous. Cette franchise dut-elle laisser voir nos bonnes qualités.
Eh, mais, dit D'Artagnan, est-ce que vous croyez, Athos, qu'on quitte de sang-froid et dans un moment qui n'est pas sans danger, deux amis comme vous et Aramis ?
Non, dit Athos, aussi venez dans mes bras, mon fils.
Mordieu, dit Porthos en sanglotant, je crois que je pleure, comme c'est bête.
Et les quatre amis se jetèrent en un seul groupe dans les bras les uns des autres. Ces quatre hommes, réunis par l'étreinte fraternelle, n'eurent certes qu'une âme en ce moment. Blaisois et Grimaud devaient suivre Athos et Aramis. Mousqueton suffisait à Porthos et à D'Artagnan. On partagea, comme on avait toujours fait, l'argent avec une fraternelle régularité, puis, après s'être individuellement serré la main, et s'être mutuellement réitéré l'assurance d'une amitié éternelle, les quatre gentilshommes se séparèrent pour prendre chacun la route convenue, non sans se retourner, non sans se renvoyer encore d'affectueuses paroles que répétaient les échos de la dune. Enfin, ils se perdirent de vue.
« Sacrebleu, D'Artagnan, dit Porthos, il faut que je vous dise cela tout de suite, car je ne saurai jamais garder sur le cœur quelque chose contre vous. Je ne vous ai pas reconnu dans cette circonstance.
Pourquoi ? Demanda D'Artagnan avec son fin sourire.
Parce que, si, comme vous le dites, Athos et Aramis courent un véritable danger, ce n'est pas le moment de les abandonner. Moi, je vous avoue que j'étais tout prêt à les suivre et que je le suis encore à les rejoindre malgré tous les Mazarins de la terre.
Vous auriez raison, Porthos, s'il en était ainsi, dit D'Artagnan. Mais apprenez une toute petite chose, qui cependant, toute petite qu'elle est, va changer le cours de vos idées. C'est que ce ne sont pas ces messieurs qui courent le plus grave danger, c'est nous. C'est que ce n'est point pour les abandonner que nous les quittons, mais pour ne pas les compromettre.
Vrai ? Dit Porthos en ouvrant de grands yeux étonnés.
Et sans doute, qu'ils soient arrêtés, il y va pour eux de la Bastille, tout simplement. Que nous le soyons, nous, il y va de la place de Grève.
« Oh oh ! Dit Porthos, il y a loin de là à cette couronne de baron que vous me promettiez, D'Artagnan. »«
Bah ! Pas si loin que vous le croyez peut-être, Porthos. Vous connaissez le proverbe « Tout chemin mène à Rome ». »«
Mais pourquoi courons-nous des dangers plus grands que ceux que courent Athos et Aramis ?» demanda Porthos.
« Parce qu'ils n'ont fait, eux, que de suivre la mission qu'ils avaient reçue de la reine Henriette et que nous avons trahi, nous, celle que nous avons reçue de Mazarin. Parce que, partis comme messagers à Cromwell, nous sommes devenus partisans du roi Charles. Parce que,
au lieu de concourir à faire tomber sa tête royale condamnée par ses cuistres, qu'on appelle messieurs Mazarin, Cromwell, Joyce, Prige, Fairfax, etc., etc., nous avons failli le sauver.
C'est ma foi vrai, dit Porthos. Mais comment voulez-vous, mon cher ami, qu'au milieu de ces grandes préoccupations, le général Cromwell ait eu le temps de penser?
Cromwell pense à tout. Cromwell a du temps pour tout. Et croyez-moi, cher ami, ne perdons pas le nôtre, il est précieux. Nous ne serons en sûreté qu'après avoir vu Mazarin, et encore.
Diable, dit Porthos, et que lui dirons-nous à Mazarin?
Laissez-moi faire, j'ai mon plan. Rira bien qui rira le dernier. Monsieur Cromwell est bien fort, monsieur Mazarin est bien rusé, mais j'aime encore mieux faire de la diplomatie contre eux que contre feu monsieur Mordaunt.
Tiens, dit Porthos, c'est agréable de dire feu monsieur Mordaunt.
Ma foi oui, dit D'Artagnan, mais en route.
Et tous deux, sans perdre un instant, se dirigèrent à vue de pays vers la route de Paris, suivis de Mousqueton, qui, après avoir eu trop froid toute la nuit, avait déjà trop chaud au bout d'un quart d'heure.